Nous allons, une fois n'est pas coutume, depuis près d'un mois, ouvrir encore une fois le livre de Ruth. Mais ça sera la dernière fois, puisque nous allons aborder ensemble l'ensemble du chapitre 4 du livre de Ruth. Et nous allons voir comment cette histoire connaît ce grand dénouement que nous attendons tous depuis le chapitre 3. Donc on va prendre ensemble ce chapitre 4, comme d'habitude, depuis le début de cette étude. Je préfère vous fournir ma traduction. Il n'y a pas trop de variations par rapport à la version seconde que je pense que vous avez dans vos mains. Mais il y a quelques éléments que j'ai voulu indiquer dans la langue originale. Vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure du message. Et vous vous rendrez compte que ça a son importance. Voilà pourquoi je voulais vous l'indiquer. Commençons donc à Ruth chapitre 4 au verset 1. Ruth chapitre 4 verset 1. Boaz était monté à la porte et il s'y était installé. Et voici que l'homme qui avait le droit de rachat, dont Boaz avait parlé, vint à passer. Il l'interpella et lui dit « Détourne-toi, viens t'asseoir ici, Pélonie Almoni. » Boaz prit 10 hommes parmi les anciens de la ville et il dit « Asseyez-vous ici. » Et ils s'assirent. Alors il dit à celui qui avait le droit de rachat « Naomi, celle qui est revenue de la plaine de Moab, vend une portion de terre qui appartenait à notre frère Élimélec. Je me suis dit « Je vais attirer ton attention et te dire de racheter en présence de ceux qui sont assis ici, c'est-à-dire les anciens de mon peuple. Si tu souhaites racheter, rachète. Mais s'il n'y a personne pour racheter, dis-le-moi que je le sache, car il n'y a personne d'autre pour racheter, et je suis le suivant après toi. » Il répondit, « Moi, je vais racheter. » Mais Boaz ajouta, « Le jour où tu rachètes ce champ de la main de Naomi, c'est aussi de celle de Ruth, la Moabite, épouse du mort que tu rachètes, afin de maintenir le nom du défunt dans son patrimoine. » Alors celui qui avait le droit de rachat dit, « Je ne peux pas racheter, de peur de ruiner mon héritage, de ruiner mon patrimoine. Toi, rachète mon droit de rachat, car je ne suis pas en mesure de racheter. » Autrefois en Israël, pour conclure toute affaire de rachat ou d'échange, on enlevait sa chaussure et on la remettait à l'autre. C'est ainsi que les transactions étaient attestées en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit à Boaz, « Rachète pour ton compte, tout en enlevant sa chaussure. » Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Élimélec et tout ce qui était à Kilion et à Mahlon, ainsi que Ruth la Moabite, la femme de Mahlon, que j'ai ainsi acquise pour femme, afin de maintenir le nom du défunt sur son patrimoine, et pour que le nom du mort ne soit pas retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous êtes les témoins aujourd'hui. » Tout le peuple à la porte, et tous les anciens dirent, « Témoins que Yahvé accorde à la femme qui rentre dans ta maison d'être semblable à Rachel et à Léa, qui toutes deux ont bâti la maison d'Israël, que tu puisses agir avec valeur en Éphrata, que l'on proclame ton nom à Bethléem, que par la descendance que te donnera Yahvé de cette jeune femme, ta maison soit semblable à celle de Pérets, que Tamar enfanta à Juda. » Alors Boaz prit Ruth, sa femme, et il entra en elle. Yahvé lui accorda de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit Yahvé, qui ne te laisse pas manquer aujourd'hui d'un Goël, d'un Rédempteur, dont le nom sera proclamé en Israël. Il sera pour toi celui qui restaure ta vie et il pourvoira ta vieillesse, car c'est ta belle-fille qui t'aime qui te l'a enfantée. Elle vaut mieux pour toi que 7 fils. » Alors Naomi prit l'enfant, elle le mit sur son sein et elle devint sa nourrice. Et les voisines lui donnèrent un nom en disant, « Un fils est né à Naomi » et elles lui donnèrent le nom d'Obed. C'est le père de Jessé, le père d'Isaïe, père de David. Voici les générations de Pérets. Pérets engendra Hetsron, Hetsron engendra Ram, Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Narson, Narson engendra Salma, Salmon engendra Boaz, Boaz engendra Obed, Obed engendra Jessé, et Jessé engendra David. Et ainsi se termine ce livre. Prions. Seigneur, notre Dieu, voici le grand dénouement. Nous avons cheminé dans ton œuvre, celle que tu as faite dans la vie de ces deux femmes, de Ruth et de Naomi. Nous avons vu comment tu as fait lever Boaz et nous avons vu comment tu as agi discrètement jusqu'ici en manifestant progressivement ta souveraineté et ta gloire et ton chesed, ton amour, ta bienveillance pour ceux qui t'appartiennent, pour ceux qui sont en alliance avec toi. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci parce que tu ne laisses jamais tomber ceux qui t'appartiennent. C'est ce que tu nous as montré jusqu'ici. Mais alors que nous abordons ce texte, Seigneur, montre-nous comment tu agis, bien au-delà de nos espérances, bien au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Montre-nous quel grand Dieu tu es. Nous te voyons, Seigneur, à travers ce texte, mais nous voulons maintenant prendre plaisir dans la manière dont tu agis. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de distinguer ton œuvre dans nos propres vies. Car si nous souffrons, et si nous sommes dans la difficulté, et si nous marchons avec peine, toi, Seigneur, tu restes le même, tu ne changes pas. Tu n'es pas affecté par quoi que ce soit, par quelques sentiments. Tu n'as pas de mauvais jours, Seigneur. Tu restes le même dans ton plan et dans ta bienveillance à notre égard. Aide-nous, Seigneur, alors que nous allons terminer ce livre, à nous souvenir de ça. Imprime ceci dans nos cœurs et que nous soyons encouragés, Seigneur notre Dieu. Amen. Alors, c'est l'heure de la grande résolution de tous les problèmes. On a vu qu'il y avait plusieurs crises tout au long de ce livre. L'avenir matériel de Ruth et de Naomi, l'avenir de la généalogie et du nom d'Élimélec, on va y revenir dans ce sermon à cette notion de nom, le mariage de Boaz et de Ruth, bien plus encore, toutes ces choses-là, on sent qu'il y a une grande et belle chose qui se passe, mais tout est en suspens à la fin du chapitre 3. Tous les problèmes sont ouverts depuis le début du livre, ils sont là, on voit que Dieu il est dans l'action, mais tous ces problèmes restent vivaces, ils restent à concrétiser la finalité, ils restent à clore tous ces dossiers. Et Dieu, dans le chapitre 4, va fermer les dossiers, clôturer les comptes, vous voyez, et rémunérer ceux qui lui appartiennent. Ce qui est assez intéressant, et je ne l'ai pas relevé forcément dans les messages précédents, quand vous regardez la structure du texte dans la langue originale, les chapitres 2 et 3 sont construits exactement pareil. Ils partagent une structure similaire, et à chaque fois, ils terminent sur Boaz en montrant cette bénédiction qu'il est pour Ruth et pour Naomi. Et à la fin du chapitre 3, les choses, elles sont très claires. On voit que l'intention de Boaz, c'est de marier Ruth, qu'il a accepté. Il veut exercer son droit de rachat sur les biens de Naomi. Mais on voit qu'il y a un blocage. Et ce blocage, c'est qu'il y a une personne qui est prioritaire pour racheter les biens de Naomi. C'est l'ultime crise, le petit grain de sable qui pourrait faire tout capoter. Mais nous allons voir que cette ultime crise, Dieu va amener les personnages de ce récit à la surmonter. Et non seulement à passer par-dessus et à résoudre les problèmes, mais Dieu va agir au-delà de toute espérance, accordant une bénédiction que personne n'espérait. Et c'est la propriété de Dieu. Le roi agit au-delà de toute espérance. Le roi résout nos problèmes et nos difficultés bien au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Et ce qu'on va voir dans ce texte, c'est que la résolution de Ruth et de Naomi, la résolution de leurs problèmes, va se faire en deux temps. Une résolution légale et une résolution généalogique. Et c'est ce qu'on va regarder ce matin ensemble, alors que nous avançons dans ce texte de Ruth, chapitre 4. Premièrement donc, une résolution légale. Une résolution légale. On va regarder les 12 premiers versets ensemble. Première chose qu'on voit, dès le verset 1, c'est que Boaz monte à la porte. Et l'action qui se déroule ici, elle est complètement dans la continuité du chapitre 3. Vous voyez, c'est quand Ruth a quitté le champ, après avoir passé la nuit sur le champ au pied de Boaz, elle remonte, elle retourne à Bethléem depuis le champ, puis en fait Boaz y va lui aussi, et en fait Boaz marche, et au chapitre 4 on le retrouve, il arrive à la ville, et il s'arrête devant la porte de la ville. Et en fait, vous voyez, la ville de Bethléem, comme toutes les villes du Proche-Orient ancien, avait des murs, cherchait à fortifier la ville pour la protéger de différents attaquants, en fait. Et il y avait une porte qui servait en quelque sorte à protéger la ville et qui était fermée la nuit. Et cette porte, en fait, avait une importance sociale très, très forte. Vous voyez, cette porte, c'était l'endroit où tout le monde passait. Donc, c'était aussi l'endroit où les marchandises passaient. Probablement aussi l'endroit où on percevait les taxes. Mais cette porte, elle avait une fonction sociale très semblable à ce que dans nos sociétés occidentales, on appelle la place du village. Vous savez, souvent, alors je ne sais pas si ça fonctionne comme ça, mais je suppose que c'est pareil au Québec, vous avez un village, et au milieu du village, vous avez souvent le bâtiment central, une église, ou la mairie, où vous voyez, c'est ces endroits où il y a une importance administrative, sociale, religieuse, culturelle très importante. Et c'est un endroit où les gens vont généralement se donner rendez-vous. Vous voyez, le point rencontre. l'endroit où on va se voir, l'endroit où on va s'asseoir pour discuter, c'est là que vous allez avoir les cafés, où les gens vont prendre le temps de prendre du temps ensemble. Eh bien, dans le Proche-Orient ancien, ce lieu, c'était la porte. Quand vous regardez, par exemple, ce qui se passe dans l'histoire de Sodome et de Gomorre en Genèse 19, vous voyez que les anges, quand ils arrivent et qu'ils ont quitté Abraham et Dieu qui est resté, ils arrivent devant la ville de Sodome et ils se posent à la porte. Et Lot est à la porte, en fait, et il les accueille pour les faire venir chez lui. Pareil dans l'histoire de Gibéa, vous savez, cette histoire où vous avez les Benjamites qui violent et qui tuent la femme du Lévite, qui est ensuite découpée en 12 morceaux dans le livre des Juges. Histoire terrible. C'est la même chose. Quand ce Lévite arrive à Gibéa de Benjamin, il reste devant Gibéa, et en fait, en restant devant Gibéa, eh bien, il se met à la porte, et c'est l'endroit où il cherche à trouver quelqu'un qui va les accueillir. Donc la porte, en fait, avait une fonction sociale importante, et même une fonction juridique importante, parce que les anciens se réunissaient là, c'est-à-dire ceux qui avaient le gouvernement de la ville. Les villes étaient gouvernées par un espèce de système collégial d'anciens, qui était l'autorité dans cette culture, pour gérer la ville. Et ces anciens se réunissaient là, et c'était l'endroit où les jugements étaient rendus. Donc quand vous avez Boaz qui est dit qu'il montait à la porte, c'est littéral, il a cheminé depuis le champ qui était à l'extérieur de la ville, il remontait vers la porte, mais l'expression « monter à la porte », c'était aussi « venir en jugement ». Les deux sens sont possibles ici. Et du coup, il monte à la porte, probablement pour régler l'affaire, on se souvient qu'il avait ça en tête, à la fin du chapitre 3, et regardez ce qui est écrit, il y a marqué « Et voici ». Or, voici que l'homme qui avait le droit de rachat dont Boaz avait parlé vint à passer. La dernière fois qu'on a rencontré cette expression « Or, voici »,« Or, voilà », c'est quand Ruth va dans un champ et voici, c'était le champ de Boaz. Comme de par hasard. Vous vous souvenez de ça? Et voilà, comme de par hasard, le gars dont il avait parlé, qui avait le droit de rachat prioritaire à lui, comme par hasard, il vint à passer. Est-ce que vous voyez comment toutes les actions sont coordonnées, tout semble millimétré, comme si une main invisible dirigeait toute chose pour le bien de cette affaire. Cet homme passe, et il passe par chance, par la souveraineté de Dieu, et Boaz l'interpelle, il lui dit « Détourne-toi, viens t'asseoir ici, Péloni Almoni ». Alors vous, dans vos versions, vous n'avez pas marqué Péloni Almoni, vous avez marqué un tel, toi un tel, ou hey, toi là-bas, vous voyez? Parce qu'en fait, l'expression Péloni Almoni, c'est ce qu'il y a dans le texte original, mais on ne sait pas du tout ce qu'elle veut dire, cette expression. C'est peut-être un espèce de jeu de mots, vous voyez, une contraction de deux mots qui n'ont rien à voir ensemble. On n'en a pas en français, j'en ai cherché une désespérément pendant que je préparais ce sermon, mais en anglais, vous avez l'expression hocus pocus. C'est ce que disaient les magiciens. Quand ils faisaient apparaître quelque chose, ils font sortir un lapin d'un chapeau, ils disent « hocus pocus ». Et par extension, cette expression, c'est devenu un peu le mot pour désigner toute forme d'arnaque. Vous voyez, quand vous voulez arnaquer quelqu'un, j'espère que vous ne voulez pas arnaquer quelqu'un, mais quand vous êtes victime d'une arnaque, vous êtes victime d'un hocus pocus. Vous voyez, c'est le mot tel qu'il est devenu. C'est deux mots qui, indépendamment, n'ont rien à voir, mais qui sonnent pareil, et on les a regroupés pour donner une expression nouvelle. C'est probablement ce qui est en jeu ici avec le mot « péloni » Almoni, personne ne sait réellement de ce que ça veut dire, mais probablement cette expression-là a été volontairement insérée par l'auteur pour cacher l'identité de cet homme. Le but de l'auteur, c'est de ne pas dire comment il s'appelle. Quand il dit « Eh, Péloni Almoni », c'est comme il dit « Eh, viens toi, un tel ». Donc votre traduction, elle est juste, mais comprenez bien que le « un tel » que vous avez dans vos traductions, c'est volontaire. C'est l'auteur qui a volontairement caché le nom de cette personne. Pourquoi? Écoutez jusqu'au bout, vous allez le découvrir. Voilà, c'est un challenge à votre concentration, chers amis. Mais donc, il lui dit, viens toi, Péloni Almoni, et assieds-toi ici. Et donc ça, c'est au verset 1. Et au verset 2, on voit encore un élément qui démontre qui est ce Boaz. Boaz prend 10 personnes, et leur dit, venez, asseyez-vous ici. Ils viennent, et ils s'assoient, et le règlement légal du rachat peut alors commencer. Je vous l'ai déjà relevé dans les chapitres précédents, mais le fait que Boaz il ait autorité pour convoquer une assemblée légale, c'est un élément qui montre sa puissance, qui montre qu'il était quelqu'un de reconnu, probablement un des anciens de la ville lui aussi. Alors, versets 3 à 6, on rentre dans ce problème légal en question, et vous allez voir, il y a de grandes difficultés. On ne peut pas passer sur ce texte trop rapidement, parce qu'en fait, on ne comprend pas forcément ce qui se passe. Donc, en présence des juges, Boaz, il va s'adresser au Goël, le gars qui avait le droit de rachat, et il lui annonce que le champ de Naomi est à vendre. Ok ? Et donc, il dit à cet homme, tu as le droit de rachat, tu es prioritaire, alors exerce ton droit de rachat, je veux attirer ton attention, et fais-le. Parce que si tu ne veux pas en user, personne d'autre n'a le droit de rachat à part moi, et moi, j'aimerais en user. Donc, rachète-le pour toi. Rachète-le pour toi. Et là, il faut qu'on s'arrête un instant. On est passé rapidement sur cette notion, mais il faut bien comprendre que cette pratique de racheter les terres de quelqu'un de la famille qui n'était pas en capacité de payer était une pratique extrêmement codifiée par la loi. Mais avant de regarder le passage en question dans Lévitique, j'aimerais faire un petit excursus dans ce que j'appellerais la théologie de la terre. La théologie de la terre dans la Bible. Parce que c'est une spécificité incroyable. Vous voyez, dans le Proche-Orient ancien, les personnes possédaient un lopin de terre ou un champ, ça leur appartenait en propre. Mais dans la Bible, quand vous possédiez une terre, en réalité, vous n'en étiez que le locataire. Car la terre appartient au Seigneur. C'est répété inlassablement dans tout le déroulement de l'Ancien Testament. La terre appartient au Seigneur, de sorte que quand vous êtes dans cette terre, vous en avez la gérance, la gestion, ça vous est alloué, vous voyez ? Ça vous est donné en tant que personne, en tant que membre de l'Alliance, mais ultimement ce pays, le pays de la conquête, le pays dans lequel ils sont rentrés, c'est Dieu, Yahvé, qui se l'est acquis et qui l'a confié en gestion à des personnes qui en étaient en quelque sorte des locataires. Ça veut dire une chose très importante, c'est que premièrement, cette terre, il ne la possédait pas en quelque sorte. La deuxième chose, c'est que tout ce qui découlait de cette terre, le fruit des saisons, le fruit des moissons, ou même la protection contre les ennemis, le fait qu'ils puissent la garder à perpétuité, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'Alliance, toutes ces choses-là étaient dépendantes de la relation d'Alliance qu'ils avaient avec Dieu, et donc de leur obéissance-désobéissance. Vous vous souvenez, on l'a vu dès le chapitre 1, malédiction en cas de désobéissance, bénédiction en cas d'obéissance, et souvenez-vous, la famine, l'absence de pluie, l'absence de récolte qu'on rencontre et qui pousse Naomi et Boaz à partir, c'est une malédiction de l'Alliance. C'est clairement connecté à la terre. On a du mal à comprendre ça. On est des citadins. La plupart d'entre nous n'ont jamais vécu ou grandi dans une ferme. On n'arrive pas à comprendre ce rapport à la terre. Mais essayez de vous mettre dans la peau de l'Israélite moyen, du Proche-Orient ancien, de la période des juges, et vous dire simplement ce que la terre signifiait. Perdre sa terre et perdre son nom, c'était être exclu de l'Alliance. Par conséquent, Dieu a mis en place ce système dans la loi, ce système de rachat, ce système de goël pour préserver la propriété de ces personnes et la pérennité du nom de la famille. Ces deux concepts extrêmement importants pour l'Israélite qui était en alliance avec Dieu. Et ne vous y trompez pas, ce concept est important pour nous aussi. Dieu nous connaît par notre nom. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Il a son nom inscrit sur la paume de notre main. Dieu s'est fait tatouer, sans blague. Mais concrètement, notre nom compte dans notre alliance nouvelle. Ce n'est pas une chose nouvelle qu'on voit là. Pour les Israélites, le nom était important, la propriété était importante. Donc sur cette base-là, maintenant que j'ai établi ces choses, lisons ensemble la loi du droit de rachat qui se trouve dans Lévitique 25, versets 23 à 28. Lévitique 25, 23 à 28. Je vais vous le lire. Et vous allez voir que se confirme tout ce que je viens de vous dire sur la théologie de la terre. Lévitique 25-23 nous dit « Les terres ne se vendront point à perpétuité, car la terre est à moi, et vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. » Comme ça, c'est fait. C'est à moi, et vous, vous êtes des étrangers, mais vous êtes des habitants. « Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres. » Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme n'a personne qui a le droit de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente et restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. S'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. Vous savez, c'est 49 ans après. Au jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acquéreur en sortira. Alors vous vous souvenez, quand il rentre dans le pays, Dieu établit un partage par tribu, par clan. C'est comme si, en fait, sur l'allotement de terre ou sur le territoire, le nom de la tribu était écrit et chacun avait sa subdivision. De sorte que cette terre, elle était donnée de manière imprescriptible. Si j'étais trop pauvre et que je devais vendre ma terre, eh bien, cette terre, je savais que j'allais la récupérer au plus tard dans 49 ans, l'année du jubilé. Mais pour pas que mon nom risque de s'éteindre au cas où toute ma famille mourrait et moi je mourrais et que je ne puisse pas réclamer cette terre, il était préférable que quelqu'un de ma famille, un de mes proches, puisse venir et racheter la terre afin que cette terre reste à mon nom et que je puisse la réclamer dans le cas où je pouvais la racheter avant les 49 ans ou dans le cas où, en fait, j'arrivais au bout des 49 ans et je pouvais la récupérer. Mais l'idée qui se trouve ici, c'est la protection du nom et de la propriété. Même les Lévites, qui n'étaient pas censés avoir de territoire, on leur avait donné 48 villes, vous relirez dans Josué. Et l'idée de cette loi, c'était que chaque clan conserve la terre dont il était le gérant et qu'il puisse la récupérer. Préserver la terre, préserver le nom, préserver la participation à l'alliance. Voilà l'idée qui se trouve derrière. Alors, quel était l'avantage pour quelqu'un de la famille qui était en position d'être le Goël, de racheter la terre? Eh bien, l'avantage pour lui, c'était d'avoir une terre supplémentaire pour quelques années, plus de récoltes, plus d'argent, plus de biens, plus de prospérité. Il savait que c'était pour un temps limité, mais il savait aussi qu'il allait pouvoir profiter de cela pendant un temps limité. Et en plus, il y avait la satisfaction personnelle de maintenir le nom de sa famille, de faire du bien à sa famille, et d'être en quelque sorte un subside, une ressource pour des personnes en difficulté. Et l'avantage d'avoir un proche qui rachetait le champ, eh bien, c'est que le champ restait dans la famille. Ça enlevait un fardeau incroyable. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Imaginez que toute ma famille meurt. Alors mon nom aurait été effacé de l'alliance. Ma terre serait sortie. Et c'est comme si je n'aurais jamais existé aux yeux de Dieu. C'était un peu comme ça que c'était perçu aux yeux des Israélites. Donc il y avait un avantage pour celui qui malheureusement devait se débarrasser de sa propriété pour un temps. Il y avait un avantage pour celui qui le rachetait. Alors, Pelloni Almoni, notre illustre inconnu, par altruisme certainement, mais aussi par intérêt, ne vous y trompez pas, il décide de racheter le champ. Il dit « Moi, je rachèterai ». Mais là, Boaz va introduire une petite complication, et pas des moindres. Il dit que le droit de rachat ne s'exerce pas simplement envers Naomi, mais qu'il s'exerce également envers Ruth, car elle est la veuve de celui qui est mort. Autrement dit, toutes les deux étaient propriétaires du champ, d'une manière ou d'une autre, et c'était une situation inédite. Une situation qui n'est clairement pas traitée par la loi. On a l'exemple d'une veuve. Je ne sais pas si vous voyez ce passage, au temps d'Élisée, avec cette veuve qui avait perdu son fils, qu'Élisée ressuscite. Cette veuve, elle doit partir pour cause de famine, elle part sous Élie, elle revient sous Élisée. Et quand elle revient, eh bien, cette veuve, elle est reconnue, elle rentre au moment où il y a un homme qui parle de la situation qui s'était passée avec Élisée. Peut-être je fais une bêtise entre Élie et Élisée, vous vérifierez, c'est dans Deux Rois. Et donc cette veuve revient, et le roi, lui, restaure ses terres. Vous voyez ? C'était la théologie du Goël qui était en jeu ici. Mais là, on a une situation où vous avez deux veuves. Et le cas devient difficile. C'est que, finalement, il va falloir savoir de qui on rachète le champ. Bien plus, et là c'est là que ça devient difficile pour nous à comprendre, il semble que pour Boaz, et pour cet inconnu, Pelloni Almoni, eh bien, racheter le champ, ça impliquait marier la veuve qui vendait le champ. Ça, c'est pas clair pour nous. Parce que c'est deux lois différentes. La première loi, c'est la loi du rachat des terres, et la deuxième loi, c'est la loi du Lévira. C'est les deux seules choses qui se rapportent dans la Bible. Or, l'un et l'autre étaient clairement séparés. On a déjà parlé de la règle du Lévira. Vous vous souvenez, on a parlé de Boaz. Et je vous ai dit, Boaz, il avait aucune obligation de se marier avec Ruth. Ce n'était pas le frère du défunt. Il n'avait aucune obligation de susciter une descendance à Ruth et au nom du défunt. Mais Boaz choisissait de le faire quand même. Il voulait le faire quand même, considérant que c'était son devoir de proche parent. Mais là, on a l'impression que et Boaz et Pelloni Almoni semblent envisager que racheter le champ, ça consiste aussi à se marier avec la veuve. Et là, franchement, personne ne comprend. Les commentateurs élaborent toutes les possibilités possibles de pourquoi les choses étaient comme cela. À mon avis, et c'est un point de vue personnel, c'est qu'à l'époque, vous aviez ce qu'on appellerait une sorte de jurisprudence. Vous savez, parfois, alors, je ne connais pas le système législatif ici au Québec, mais en France, c'est comme ça. Parfois, vous avez des décisions de justice qui règlent des cas difficiles, qui reviennent régulièrement, et cette décision de justice, on dit qu'elle fait jurisprudence. Et du coup, les décisions de justice qui vont suivre, ultérieures, eh bien, elles vont s'appuyer sur cette décision de justice, de sorte qu'on sait comment traiter le cas parce que quelqu'un l'a déjà traité. Et en fait, a priori, là, il y avait une sorte de jurisprudence qui fait qu'en fait, l'obligation du lévirat, qui normalement était limitée aux frères du décédé, eh bien, c'était étendu à toute personne qui rachetait la propriété d'une veuve. Probablement, ils avaient compris l'idée du lévirat, compris l'idée du goël, et l'idée était simplement de se dire, on va préserver une famille en Israël, on va préserver le bien-être des plus faibles, des veuves, des orphelins, des étrangers. On va les préserver, on va les aider à être maintenus dans l'Alliance. En quelque sorte, une obligation de prendre soin des personnes les plus faibles, veuves et jeunes enfants, et éventuellement de préserver la lignée. En tout cas, il y a une chose qui est claire, c'est que cela semblait ne pas souffrir de la moindre contestation pour Boaz et pour Pélonie Almoni. À aucun moment, vous avez Pélonie Almoni qui dit « Non, moi je rachète le champ, mais je ne suis pas obligé de me marier. » À aucun moment, il ne dit ça. Pour eux, c'était clair. Tu prends le champ, tu prends la veuve. Mais dès l'instant où Ruth est mentionnée, Pélonie Almoni ne veut plus entendre parler de rachat. Pourquoi ? Il dit « Je refuse de racheter de peur de ruiner mon patrimoine. » Mais certains commentateurs commencent à essayer d'expliquer qu'en fait, Ruth était moabite et que du coup, bah, comme elle n'était pas de l'Alliance d'Israël, se marier avec une moabite, ça ne se faisait pas. C'est un petit peu, vous savez, il y a des églises aujourd'hui où on dit « Ne vous mariez pas avec une personne qui a une couleur de peau différente que la vôtre. » Ce sont des choses qui arrivent. Sergine et moi, on connaît une église comme ça en France où le conseil qui est donné, c'est « Ne vous mariez pas avec une personne de couleur si vous êtes blanc. Ne vous mariez pas avec un blanc si vous êtes une personne de couleur. » Ça conduit toujours à des désastres. Moi, je pense que ce genre de théologie, en soi, est déjà un désastre. C'est complètement le contraire, vous voyez, de ce que l'ordre créationnel implique du fait que nous sommes tous descendants d'Adam et que la restauration de toutes choses implique que la mixité, c'est ce qu'on retrouvera dans le ciel. Par conséquent, il n'y a rien de plus beau qu'un mariage mixte parce que c'est la restauration de l'ordre tel qu'il était dès le commencement. C'est le triomphe par rapport à toutes les divisions et les sectes qui sont nées dans l'histoire de l'humanité. C'est quelque chose qu'on pourrait développer. Ce n'est pas le sujet de ce sermon. Mais ici, Pélonie Almoni dit qu'il refuse de racheter de peur de ruiner son patrimoine. Sa considération, elle n'est pas premièrement ethnique. Sa considération, elle est économique. Pourquoi cela ? Eh bien, si Boaz avait racheté le champ de la main de Naomi, selon cette jurisprudence qu'on vient d'établir, eh bien, il aurait certainement dû la marier. Or, Naomi, c'était une veuve. Se marier avec une veuve âgée, c'est pas très reluisant d'un point de vue, de la représentation. Regardez, je me suis marié avec une femme plus âgée que moi. Quoique, vous voyez, aujourd'hui, c'est la mode avec notre président en France qui s'est marié avec une femme qui est beaucoup plus âgée que lui. Mais en tout cas, il était sûr d'une chose, c'est que s'il se mariait avec une veuve, eh ben, elle n'aurait pas d'enfant. Par conséquent, quoi qu'il arrive, l'héritage n'allait pas passer dans d'autres mains. Elle allait mourir, le jubilé, bingo, et je me garde le champ pour toujours. Et en fait, le champ me passera à moi, et il restera sur mon nom. Et au bout du compte, le nom d'Elimelech, il se serait éteint. Vous voyez ? Peut-être même qu'il y a autre chose derrière. C'est que cet homme, il n'avait peut-être pas d'enfant. Et n'ayant pas d'enfant, bah, il se disait, il faudra que ça passe à quelqu'un qui sera mon plus proche parent. Et donc du coup, dans un cas comme dans l'autre, eh bien, se marier avec Naomi, ça ne posait pas de problème, il ne risquait pas d'avoir un enfant et l'héritage ne risquait pas de passer au clan d'Elimelech, vous voyez ? Mais s'il se marie avec Ruth, mais Ruth c'est une jeune femme, une jeune Moabite, peut-être qu'elle était même très belle, alors là ça devenait très intéressant de se marier, sauf que Ruth, elle pouvait avoir des enfants. Et si elle avait eu un enfant, eh bien notre ami Pélonie Almoni, il aurait été exposé à un grand danger d'un point de vue économique. S'il n'avait pas d'enfant, par exemple, ça voulait dire que l'enfant qu'il aurait eu avec Ruth aurait hérité de tout. Et c'est son nom à lui, Pélonie Almoni, son nom qu'on ne connaît pas, qui aurait été effacé. Ou alors il avait peut-être des enfants, vous voyez. Il avait peut-être une famille. Mais qui sait, au temps des juges, quel genre de cataclysme pouvait nous tomber dessus de sorte qu'on ne sait jamais ce qui peut nous tomber sur le coin de la figure et comment on aurait pu se faire avoir par un événement naturel, un cataclysme, une famine, il venait d'en expérimenter une guerre, pourquoi pas, il y en a eu tout au long du livre des juges, et par conséquent, qui aurait survécu? Qui pouvait savoir ça? Il mettait son héritage en grand danger. Il mettait son héritage en grand danger en faisant cela. Alors s'il mariait Ruth, la possibilité qu'elle enfante était grande, et s'il était dans un cas de figure particulier, ou s'il craignait ne pas avoir d'enfant survivant, il se mettait en situation de devoir donner l'ensemble de son héritage et de le donner au clan d'Élimélec. En gros, là où il aurait dû racheter le nom d'un clan, eh bien, probablement, il se serait fait racheter le sien. Danger. Alors il était prêt à se marier et à exercer le droit de rachat, mais il ne voulait pas prendre de risques. Et on le comprend. Qui aurait voulu prendre le risque pareil de perdre toute sa propriété, tout ça pour rendre service à quelqu'un? Sauf que, si lui risquait ces choses-là, c'est exactement ce que risquait Boaz également. Boaz avait exactement les mêmes problèmes que cet homme dont on ne connaît pas le nom. Et vous voyez tout de suite la grande différence qui est indiquée dans le texte lui-même. Péloni Almoni dit « je ». Boaz dit « Naomi et Ruth, Naomi et Ruth ». Et Boaz, il ne se pose même pas la question. Il veut se marier, il veut exercer le droit de rachat. Et croyez-moi, il avait exactement les mêmes risques que ce Péloni Almoni pouvait avoir. Péloni Almoni est centré sur lui, sur son héritage, sa portion de terre, son nom. Boaz, lui, il est centré sur le nom des autres, la situation financière, la situation de bien-être des autres. C'est le chesed dont nous ne cessons de parler depuis le début de ce livre. Il avait en vue les autres avant lui-même. Vous voyez ce contraste? C'est le contraste de toute notre relation avec les autres, notamment dans la communauté de foi. C'est exactement ce que nous sommes appelés à faire en tant que chrétiens, faire passer les autres avant nous-mêmes. Chose que nous avons réellement du mal à intégrer au quotidien, n'est-ce pas? Comment renoncer à mon confort, renoncer à mes droits, renoncer à mes choix, renoncer à ma vie en quelque sorte, prêt à la perdre de manière à ce que les autres la gagnent et soient bien? Vous savez, j'ai entendu un prédicateur pentecôtiste que j'aime beaucoup, M. Barbureau en France, qui est bien connu, tout le monde le connaît, c'est un évangéliste de grand talent. Il a dit « Si tout le monde avait l'amour de Dieu, il n'y aurait plus de place de parking dans Paris ». Et alors, place de parking dans Paris, c'est un grand débat, croyez-moi. Vous savez pourquoi il disait ça? Il disait parce que si tout le monde avait l'amour de Dieu dans le cœur, personne ne voudrait prendre la place et il voudrait la laisser à l'autre. Du coup, personne ne se garderait. Vous voyez? Mais c'est tellement ça, en fait. Comment faire passer l'intérêt de l'autre avant le mien? Quel est l'amour qui est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit? Est-ce l'amour de Dieu? Est-ce que c'est ce genre de choses qui est implicite que le Saint-Esprit me conduit à faire dans ma relation avec Dieu, dans ma relation avec les autres, notamment la communauté de foi? Regardez Boaz, quel exemple. Dès l'Ancien Testament, il avait compris bien plus que la loi. Il était guidé par la loi, mais il était animé par le chesed, par l'esprit de la loi. Grosse différence entre Péloni Almoni et Boaz. L'un est centré sur lui, l'autre est centré sur les autres. Alors Péloni Almoni laisse le soin à Boaz de racheter son droit de rachat. Il fait glisser sa sandale. C'est une semelle en cuir avec des lacets. Hein. Vous savez, à l'époque, c'était juste une semelle et puis avec des lacets autour. Et puis, il la remet à Boaz. C'était une pratique qui avait cours autrefois en Israël, mais qui était déjà perdue au moment où l'auteur écrit le livre de Ruth, c'est-à-dire probablement du vivant de David, comme je vous le disais en introduction. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que la pratique de l'échange de semelles, de sandales, pardon, on la retrouve dans la règle du Lévira dans la loi. Vous savez, si une femme, son frère... Le frère de son défunt, pardon, refusait de... C'est compliqué toutes ces relations familiales dans la Bible, n'est-ce pas? Le frère de son défunt refusait de se marier avec, eh bien, elle devait lui ôter sa sandale et lui dire « C'est ainsi qu'on fait en Israël à celui qui refuse d'exercer son droit de rachat. » Elle lui ôtait sa sandale et elle lui crachait à la figure. Histoire d'imprimer un opprobre devant tout le peuple parce qu'il avait refusé de maintenir le nom du défunt en Israël. C'est le seul endroit où on parle de cette histoire de sandales. Mais il semble que c'était une pratique courante en Israël que d'échanger ces sandales. Donc avec le don de la sandale, c'est la procédure qui se termine. Vous savez, alors ça nous fait rigoler que, qu'on échange les sandales. C'est comme si, par exemple, j'achetais la voiture de Samuel. D'ailleurs, Samuel avait perdu les clés de sa voiture. Il est joyeux aujourd'hui. Il les a retrouvées dans ma voiture, n'est-ce pas? Où il les avait oubliées. Mais c'est comme si je rachetais la voiture de Samuel et pour lui dire, bon, écoute, voilà, on signe le contrat. Tiens, c'est ma chaussure. Tout le monde rigolerait aujourd'hui. On se dirait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qu'ils font avec leurs chaussures, etc. Mais en fait, échanger dans cette culture où l'écrit n'était pas prédominant, échanger la chaussure était en fait l'acte légal de transfert. Aujourd'hui, on signerait un papier de vente. Dans tout document administratif, vous mettez votre signature en bas de la page. Bon, moi, vous savez, je signe encore avec une croix, je n'ai pas appris à écrire correctement, j'exagère. Mais vous voyez ce que je veux vous dire, c'est qu'à cette époque-là, l'échange de chaussures, notamment le fait que celui qui passait la transaction donne sa chaussure à l'autre, eh bien, c'était la manière de signer, en quelque sorte. Mais Boaz, il ne se contente pas de cela. Il décide de proclamer son rachat, il le fait devant les anciens, et d'ailleurs, il y avait les 10 anciens assis, mais le peuple autour. Et il se dit, voilà, je vais leur dire, vous êtes témoins aujourd'hui, parce que si quelqu'un devait questionner la situation dans le futur, non seulement j'aurai cette sandale, mais en plus, j'aurai le témoignage de tous ceux qui sont présents à la porte. Chose encore plus importante. Il leur dit, est-ce que vous êtes témoins que je rachète toutes les propriétés qui appartenaient aux morts, c'est-à-dire à Elimelech, mais aussi à Mahlon, qui était probablement l'aîné, et est-ce que vous êtes témoins que j'ai acquis par mariage Ruth? Et Boaz explique son intention, regardez bien, il le dit, je ne veux pas que le nom du défunt soit retranché de son héritage, je ne veux pas qu'il se perde. Et l'effet stylistique met tellement l'emphase sur le nom que d'un seul coup on comprend exactement ce qui est en jeu d'un point de vue littéraire ici. Boaz, qui est prêt à tout donner jusqu'à perdre son propre héritage pour sauver l'héritage d'Elimelech, son nom est indiqué dans le texte. Mais cet homme, ce Péloni Almoni, qui voulait tellement préserver son héritage, sa lignée et son nom, il n'est même pas nommé. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Ça ne vous rappelle rien? Mais celui qui sera prêt à la perdre à cause de mon nom, la conservera pour l'éternité. Et nous avons exactement cela en jeu ici. Tu veux travailler pour toi, mon gars. Tu veux prendre l'alliance comme un moyen de t'enrichir personnellement, de maintenir ton pré carré, de garder ton petit nom à l'intérieur de l'alliance, mais tu n'as rien compris. Tout, Dieu donne tout pour la communauté de foi. Dieu donne tout pour son alliance. Il est fidèle jusqu'au bout parce que lui, il est le vrai chesed, le chesed divin, cet amour qui vient de Dieu, cette bienveillance, cette longanimité. Boaz, son nom, on l'invoque encore aujourd'hui. Mais cet homme qui n'a pas voulu exercer son droit de rachat, on ne le connaît que sous le nom de un tel, Péloni, Almoni. Alors les anciens entendent cette demande de témoignage et il n'y a pas de oui en hébreu, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils crient « témoin !» Et alors que Boaz leur demande d'être témoin, ils répondent positivement, mais ils ne s'arrêtent pas là. Ils prononcent une bénédiction. Il y a deux bénédictions dans ce texte et c'est la première qu'on rencontre. La bénédiction des anciens. Et cette bénédiction, elle a trois aspects, trois parties principales. Première partie, c'est que Yahvé accorde à la femme qui entre dans ta maison d'être comme Rachel et Léa. À elles deux, elles érigèrent la maison d'Israël. Rachel et Léa, ça vous parle? C'est les femmes de Jacob. Rachel et Léa sont les femmes de Jacob. Et ce qui est assez étrange, il y a plein de choses à dire, hein. Je suis désolé, je ne pourrais pas tout dire, mais c'est qu'en fait, Rachel, elle est mentionnée en premier. Or, c'était la cadette. Donc théoriquement, vous mentionnez l'aîné d'abord. Deuxième chose, on était en Juda. Elimelech descendant de Juda, d'accord? Qui était la mère de Juda? C'est Léa, c'est pas Rachel. Alors pourquoi est-ce qu'il mentionne Rachel en premier? Il y a plusieurs raisons à cela et je trouve ça impressionnant. La première raison, probablement, c'est la fertilité de Ruth. Vous vous souvenez, elle est restée 10 ans en Moab. Et pendant ces 10 ans, elle n'a pas eu d'enfant. Nous, on suppose que c'était l'homme qui était infertile, puisque à un moment donné, à la fin du livre, elle enfante. Peut-être bien que Dieu lui a ouvert aussi la possibilité d'enfanter. Mais dans tous les cas, il y a un parallèle entre cette Rachel, qui était elle aussi atteinte de fertilité. Vous vous souvenez toutes les galères qu'elles avaient entre deux sœurs là? Elles se disputaient tout le temps. L'autre avait plein d'enfants et Rachel, elle souffrait de ne pas en avoir. Et à un moment, elles se disputent pour la possession d'une plante aphrodisiaque, une mandragore. Et puis alors, tiens, le mari couchera avec toi cette nuit et toi, demain, il couchera avec toi. On a l'impression que que Jacob, dans cette histoire, c'est comme un objet qui passe de maison en maison, de lit en lit. Incroyable de voir ce que la polygamie engendrait comme tension dans les familles, mais Rachel était infertile. Elle avait un problème de stérilité. Et du coup, le parallèle entre Ruth et Rachel est absolument troublant. Rachel a fini par enfanter parce que Dieu s'est souvenu d'elle et lui a donné la capacité d'enfanter. Donc en donnant cette bénédiction, en associant Ruth à Rachel, il y a clairement l'idée de cette fertilité que Dieu donne à cette femme d'être fertile, que Dieu donne à ta femme de pouvoir bâtir une maison en Israël. Mais ça va bien plus loin. Ils lui disent que non seulement il la rend fertile, mais qu'en plus il lui donne le même statut de matriarche qu'une personne comme Rachel qui a établi notre clan. Que de toi sorte un clan, que de toi il y ait une grande famille, que ton nom soit vraiment vu en Israël. De manière incroyable, il souhaite que Ruth, l'étrangère, la Moabite, ça devienne une espèce de pilier pour la nation, quoi. Voilà le genre de bénédiction qu'ils font. Ils ne se rendent même pas compte comment leur bénédiction est prophétique. Deuxième chose, que tu puisses agir avec valeur, Ha'il, en Ephrata, et que l'on proclame ton nom. Vous vous souvenez de la notion de valeur? Ruth, elle est une femme de valeur, Eshet Ha'il. Boaz est un homme de valeur, Ish Gibor Ha'il. Et là, ce qu'ils disent, c'est agis de cette manière dont tu as agi depuis le début du livre. Continue à faire comme cela. Poursuis l'œuvre que tu as commencée, cette manifestation de grâce, de recette, de bienveillance que tu as manifestée dès le départ, continue-le jusqu'au bout. Vous voyez ? Voilà leur souhait. Et troisièmement, que ta maison soit comme la maison de Pérets, que Tamar enfanta à Juda. Alors si vous aviez un doute, vous vous souvenez tous les parallèles que j'ai faits presque à chaque sermon entre la personne de Ruth et la personne de Tamar. Je vous disais que Ruth, elle était en fait l'inverse de ce qu'était Tamar. Vous vous souvenez de Tamar qui montait toute une embrouille, qui s'est déguisée en prostituée, vous voyez, qui s'est mise sur le chemin pour pouvoir finalement coucher avec son beau-père, Juda, et avoir une descendance que Juda lui refusait. Ah, incroyable! Limite dégoûtant, vous voyez. Bah, le plan de Naomi, ça ressemblait beaucoup à ça. Mais Ruth, de ce plan, s'est débrouillée pour que tout se fasse dans la lumière et que toutes les choses se passent bien. Et vous voyez, non seulement ils comparent Ruth à Rachel et veulent l'établir comme une matriarche en Israël, mais maintenant ils disent, regardez, on avait une étrangère, une cananéenne, Tamar, qui elle a été associée à Juda et ils ont enfanté Pérets. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, on descend tous de ce clan-là. Alors que Dieu, Yahvé, te rendre aussi fécond que cette femme. Lui, il s'est marié avec une étrangère, Pérets. Mais c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et toi, tu fais pareil. Mais formidable, que Dieu te bénisse. Alors oui, il y a un parallèle entre Ruth et Tamar, mais on va y revenir. Cette comparaison est absolument en faveur de Ruth. Il y a des divergences morales entre Tamar et Ruth, mais il y a une similarité de situation. Elles étaient étrangères les deux. Les deux avaient usé de la règle du Lévirat. Mais l'idée qui se trouve ici, c'est, vous voyez, c'est si Yahvé a béni Tamar, elle, l'immorale, avec son plan catastrophique, à combien plus forte raison va-t-il bénir Ruth, la Moabite, qui a agi contrairement à ce que font toutes les femmes israélites, toutes les femmes cananéennes, toutes les femmes étrangères en Israël. Voilà pour la résolution légale et la bénédiction des anciens qui s'ensuit, qui porte clairement sur la fertilité. C'est frappant, hein, que ce soit des hommes qui prient pour la fertilité d'une femme. Mais on voit que la préservation de la lignée et la conservation du nom étaient tellement importantes en Israël. Deuxième chose que nous voyons dans ce texte, c'est qu'il y a une résolution généalogique. J'aime pas la formulation, mais en fait c'est ça. Il y a une résolution généalogique. Mais avant de rentrer dans le détail de cette résolution, souvenez-vous des centres d'intérêt de chacun. Vous vous souvenez que pour Boaz et pour Ruth, le centre d'intérêt, c'était avant tout le bien-être de l'autre. Ruth voulait le bien-être de Naomi. Naomi voulait le bien-être de Ruth. Boaz voulait le bien-être de Ruth, et dans un certain sens, Ruth voulait le bien-être de Boaz. Bref, tout le monde faisait passer l'autre avant soi-même. Mais pour le narrateur, pour l'auteur du texte, même s'il met en avant l'amour sacrificiel que Ruth et que Boaz manifestent, se recèdent, lui, son intérêt, il va bien au-delà de tout ça. Son intérêt, c'est la lignée de David. Et c'est pour cela que le mariage légal et l'aspect généalogique de ce mariage est si important pour l'auteur. Il veut montrer comment ça a eu un impact, non seulement pour la nomination de David, mais aussi dans la lignée messianique. Revenons au texte. Boaz et Ruth, donc, deviennent mari et femme, verset 13. Et c'est une petite note éditoriale qui nous indique que Boaz a effectivement pris Ruth pour femme, qu'il a consommé son mariage. Et là, nous voyons cette note tellement encourageante. Dieu donna à Ruth de concevoir. Elle lui donne de concevoir et elle enfanta un fils. C'est exactement l'accomplissement de la prière des anciens. Quelle bénédiction! Ça nous rappelle que déjà, à bien des égards, la situation dramatique de Naomi et de Ruth est en train de se résoudre. Mais surtout, le fait que d'avoir des fils, des enfants, mais des fils en particulier, est une bénédiction de l'Éternel dans cette alliance. Et encore aujourd'hui, on a un joli petit bébé au fond de la salle. Et ce petit enfant que nous avons présenté il y a quelques semaines à la communauté de foi, ce petit enfant est un don de l'Éternel. Le fait même que la vie puisse être conçue est l'œuvre de Dieu. Et ici en particulier, alors qu'il y a cet enjeu incroyable de bien-être, de résolution de crise, et peut-être bien plus avec la lignée de David, on voit que l'enfantement est un don de Dieu. C'est une conception théologique qui est bien ancrée dans l'Ancien Testament. Et là, vous avez cette naissance qui a lieu, a priori, dans la maison de Boaz et de Ruth, et les femmes de Bethléem vont commencer à s'intéresser et vont donner une bénédiction particulière, mais pas sur Ruth directement. Elles vont bénir Naomi. Et cette bénédiction, elle a encore à trois parties. Et regardez comment c'est vraiment intéressant ce qu'elles disent. Première chose qu'elles disent, verset 14, « Béni soit Yahvé, qui ne te laisse pas manquer aujourd'hui d'un Goël. » Goël dans le sens de rédempteur. Elles reconnaissent que l'issue de cette situation, en quelque sorte, et l'enfantement, vient de Dieu seul. Mais vous voyez ici, il y a une question qui se pose, c'est « Mais qui est-ce Goël ?» Alors, d'habitude, lorsqu'on vient sur ce texte, puisqu'on a parlé de Goël tout du long du livre, on arrive à la fin du livre, on se dit que le Goël, ça ne peut être que Boaz. Et on en conclut, comme je vous le disais, que Boaz, c'est en quelque sorte ce type de la rédemption, ce type de Christ. Mais le fait que ce Goël soit donné aujourd'hui, c'est ce que dit le texte, le fait qu'il restaure la vie, verset 15, et que finalement le contexte général, ça soit celui de l'enfantement, on voit bien que ce n'est pas Boaz qui est en vue, mais le fils de Boaz et de Ruth. Le Goël n'est pas ici utilisé dans le sens légal, mais plutôt dans le sens de libérateur, en quelque sorte, de cette délivrance, le même type de délivrance que Christ accomplit une fois pour toutes, en mourant à la croix et en ressuscitant. Naomi, elle est libérée des fardeaux pesants qu'elle traînait depuis le départ de Juda. Elle a reçu ce sac de grains de la part de Boaz. Elle est comblée d'un point de vue économique, et maintenant, elle a une descendance. Au sein de son amertume, Dieu l'a comblée. Et notez que pour les femmes de Naomi, c'est pour les femmes qui sont dans l'entourage de Naomi, c'est à Naomi que ce fils est né. Elle ne l'attribue même pas à Ruth. Regardez ce qu'elle dit. Dieu a vu ton amertume. Dieu a vu ton vide. Et il t'a comblé. Il t'a rempli. Il t'a donné à manger. Et il t'a donné un fils. Le nom de ce fils sera proclamé en Israël, disent-elles. De manière prophétique, ces femmes perçoivent qu'il va avoir un impact bien au-delà des murs de leur ville et que tout Israël en sera au bénéfice. Il ne se contente pas de venir combler Naomi. Il va bénir le peuple tout entier. Et elles bénissent Ruth implicitement. C'est ta belle-fille qui t'aime qui te l'a enfantée. Elle rappelle son amour, son attachement à Naomi. Et elle lui dit, regarde ta belle-fille. Même si tu n'avais pas eu d'enfant, elle te vaut mieux que sept fils. Regarde son amour pour toi. C'est ce que toutes ces femmes pensent de Ruth et de son témoignage à la porte de la ville. Quel témoignage cette Moabite a laissé, n'est-ce pas? Alors Naomi élève l'enfant, verset 16, on voit qu'elle fait fonction de nourrice. Moi, quand j'ai lu ce passage, ça m'a beaucoup encouragé. Vous savez, les premières années de ma vie, c'est ma grand-mère qui m'a élevé. Je ne crois pas que j'ai connu femme plus vertueuse que ma grand-mère. Elle est très âgée maintenant, d'ailleurs j'en profite pour vous dire, hein, je ne sais pas où elle en est avec le Seigneur, vous pourriez prier pour elle, elle s'appelle Jacqueline, gentille mamie, qui n'a peut-être probablement plus très longtemps à vivre, mais vraiment, quelle bénédiction elle a été pour moi, une femme vraiment délicieuse. Et de voir que Naomi élève cet enfant, eh bien, on voit que Ruth a vraiment voulu, a eu l'intention de donner un fils à sa belle-mère. Elle ne voulait pas la laisser dans son amertume. Depuis le début, ce qu'elle cherchait, c'était sa guérison. Regardez comme chaque personnage de ce texte s'efface pour laisser la plénitude de la bénédiction et du bonheur à l'autre. Et c'est comme ça que chacun est béni, finalement. C'est elle qui finalement place son propre fils dans les mains de Naomi, et on voit que si ce n'est pas généalogiquement parlant, en tout cas techniquement, c'est elle qu'il a élevé. Mais voici au verset 17 quelque chose de particulièrement surprenant. C'est que l'enfant est nommé collectivement. L'enfant est nommé collectivement. Il est nommé par les voisines, nous disent le texte. Je ne sais pas si vous imaginez, si Christian et Pamela, après avoir eu leur enfant, vous les imaginez sortir dans la rue, cogner aux portes et dire « Eh, on a un enfant, vous ne voudriez pas venir nous aider à trouver le nom ?» Ça paraît complètement incroyable, mais quand on lit le texte, c'est l'impression qu'on a ici. Alors, l'expression, elle est inhabituelle, mais en plus, elle est redondante. C'est-à-dire qu'elle est répétée deux fois, comme si ce n'était pas important. Vous voyez, quand vous avez une répétition en hébreu, généralement, vous savez, ils n'avaient pas, comme nous, on a Microsoft Word aujourd'hui, excusez-moi pour la pub, hein, ceux qui écoutent l'enregistrement, sous Microsoft Word, vous pouvez mettre les mots en gras, vous pouvez les mettre en italique, vous pouvez les souligner. Mais en hébreu, vous ne pouviez pas faire ça. Déjà parce que les techniques n'existaient pas pour le faire, mais en plus de cela, la plupart des gens ne lisaient pas et n'écrivaient pas. Donc quand vous vouliez mettre l'emphase sur quelque chose, vous n'aviez pas 36 solutions, il fallait répéter. Le fait que ça soit répété deux fois, qu'elles aient donné le nom, est assez surprenant. Alors, ce n'est pas que Ruth ou Naomi n'ont pas eu leur mot à dire dans le nom donné à l'enfant, mais plutôt que ces femmes l'ont approuvé, en ont fait écho, et la forme de la formulation, c'est comme, vous voyez, comme une proclamation de la naissance, un peu comme ces anges qui viennent à la naissance de Christ et qui proclament sa naissance. Vous voyez ce passage-là ? C'est grosso modo la même chose qui se passe ici. Mais l'idée aussi, c'est que cette manière de formuler toutes ces femmes qui sont autour de la famille, ça sonne comme un chorus, vous voyez, comme si elles criaient tout en chœur, vous voyez, comme une espèce de chorale qui disait « Ouais, un fils aidé à Naomi !» Souvenez-vous ce qui se passe au chapitre 1, quand Naomi et Ruth arrivent dans la ville. Vous vous souvenez, les femmes sont là, elles disent « N'est-ce pas là, Naomi ?» Et je vous avais dit déjà à ce moment-là, c'est comme un chorus. C'est comme si elles étaient là à l'entrée de la ville, et alors que Ruth et Naomi rentrent dans la ville, elles font « Wow, regardez dans quel état elles sont !» Et bien là, c'est comme si, en fait, même le chorus des femmes de Jérusalem trouvait son pendant à la fin du livre. Elles qui avaient dit « Wow, c'est quoi ça ?» au début du livre, voici qu'elles disent « Un enfant est né !» Et en fait, tout le livre est en train de se refermer sur cette bénédiction. Elles choisissent de l'appeler « Obed », qui est peut-être une abréviation de Obadia, serviteur de Dieu, mais plus important est cette phrase par laquelle le verset 17 se termine. Le narrateur ouvre l'ultime scène du livre, c'est Obed qui est le père de Jessé, qui est le père de David, et voilà donc pourquoi toute cette histoire, l'auteur s'est pris la peine de la raconter, et voilà pourquoi donc toute cette histoire, nous en sommes au bénéfice aujourd'hui, elle nous a été transmise. C'est que nous avons Ruth et Boaz qui se retrouve dans la généalogie de David. Alors, c'est une généalogie royale, concluons sur ces quelques lignes, qui était courante dans les documents du Proche-Orient ancien. Vous savez, vous aviez deux types de généalogie dans la Bible. Certaines d'entre elles étaient ethniques, elles servaient à manifester la généalogie d'un clan. D'autres montraient comment, par exemple, un roi avait des ancêtres rois lui-même et pouvait prétendre à la royauté. Voilà le genre de généalogie qu'on retrouvait au Proche-Orient ancien. Sauf que là, en fait, dans le cas de David, ça ne sert pas à grand-chose. Parce qu'avant David, lui qui est fondateur de la dynastie, il n'y avait pas d'autre roi. Et à part montrer que David avait en fait une certaine des ancêtres qui étaient humbles, comme Ruth et étrangers, eh bien, elle ne servait pas forcément à grand-chose par rapport à cela. Et alors, il y a beaucoup de choses qui ravissent l'esprit des spécialistes dans cette généalogie. Par exemple, le fait que la généalogie commence par Pérez plutôt que par Judas, vous voyez, ça c'est quand même assez impressionnant. Le fait qu'il y a 10 générations qui soient mentionnées, exactement comme la génération d'Adam, où il va aller disputer les enfants dehors qui font beaucoup de bruit et qui nous donnent du mal pour nous concentrer. Donc vous avez 10 générations qui sont mentionnées, comme la généalogie d'Adam en Genèse 5, le fait que Boaz y occupe la 7e position, comme Enoch qui marcha avec Dieu et qui ne fut plus parce que Dieu le prit. Toutes ces choses-là, je pourrais vous en parler pendant des heures, les spécialistes s'y arrêtent, mais je préfère qu'on termine, alors qu'on close ce livre, en regardant ce grand renversement qu'est le livre de Ruth. Un renversement personnel, par exemple. Naomi part dans la désobéissance, et elle retourne dans l'abondance. Vous voyez comme elle est remplie de ce vide dans lequel elle était, et regardez comme sa souffrance a été féconde. C'était la marque que Dieu ne l'avait pas oubliée. Ces galères même manifestait sa misère qu'elle a connue, manifestait que Dieu ne l'avait pas oubliée. Il s'est servi de sa misère pour la bénir. Un renversement typologique aussi. Regardez comme Boaz et Ruth contrastent avec Judas et Tamar. Regardez le recède et la droiture qu'ils démontrent là où l'histoire de leur prédécesseur n'est que machination. Regardez comment Ruth contraste avec les filles de Lot. Regardez comment elle contraste même avec son peuple Moab, comment il est né. Et puis regardez ce renversement messianique. Naomi et sa famille étaient partis pour échapper au jugement de Dieu sur Israël, mais le livre se referme avec une bénédiction plus grande qu'ils ne pouvaient l'imaginer. La ligne de Mahlon est devenue la ligne de Christ. Mais ce qui est assez frappant, c'est que dans une telle généalogie, si on respectait le principe du Lévira, on aurait dû avoir le nom de Mahlon qui aurait dû être mentionné, pas celui de Boaz. Mais la généalogie de David, que dis-je, la généalogie messianique inclut le nom de l'homme qui avait manifesté tant d'amour et tant de chesed. C'est le nom de Boaz dont on se souvient. Et on s'en souvient pas à cause de la loi du Lévira, pas à cause de la loi du Goël, mais parce que dans l'Alliance, il a été fidèle. Il a été trouvé fidèle. Et vous pouvez être sûr que son nom a été célébré pour toujours. C'est ce qui s'est passé ici, dans ce texte. Et c'est ce que nous voyons alors que ce livre se termine. Souvenez-vous en Genèse 3,15, Ève mange du fruit, en donne à manger à Adam, et Dieu prononce des jugements contre Adam et contre Ève. Mais il fait une promesse, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, réglera le problème, et le serpent lui blessera le talon. Première mention de Christ. Le livre se termine avec le fait que la généalogie continue. En attaquant la généalogie de Boaz ou d'Elimelech ou de Naomi, Satan attaquait clairement la venue du Messie. Ce Messie qui était promis depuis Genèse 3,15 et qui est manifesté dans le Nouveau Testament. L'histoire de Ruth non seulement nous montre cette belle manifestation de Chesed, nous montre comment la lignée d'Elimelech a été préservée, nous montre comment David est sorti d'une humble existence et est devenu ce roi Messie que tout le monde attendait, mais surtout pour nous. Cela nous montre comment Dieu, dans des circonstances incroyables, incertaines, a maintenu cette lignée promise de sorte que nous avons un sauveur qui est venu et qui nous est né. Tel est le livre de Ruth et tel est ce que nous en avons appris. Il est temps pour nous de prier. Seigneur, merci pour la manifestation de ta grâce. Tu l'as montré et tu l'as manifesté de sorte que nous pouvons être au bénéfice de celle-ci. Nous savons que Christ est venu et qu'il a accompli tout ce que nous attendions, le pardon des péchés en mourant sur cette croix. Merci Seigneur pour ta bienveillance, merci pour ta grandeur et pour ton amour, parce que tu as préservé toutes ces choses pour que nous aussi, nous en soyons au bénéfice. Accorde-nous la grâce de faire passer l'autre en priorité, Seigneur. Non pas nous considérer nous-mêmes, notre nom, nos possessions, mais accorde-nous la grâce de nous confier en toi et d'être bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen.